Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Conditions de vie difficiles pour plus de 10 000 ménages des déplacés vivant à Pinga, Iana et Lubérique dans le Nord Kivu. Ces personnes avaient fui l'avancée des rebelles du M23 vers Pinga. Depuis fin octobre dernier, un responsable de Pinga lance un SOS. Perturbation dans le transport en commun ce lundi à Kinshasa. Plusieurs Kinois ont marché des longues distances à pied ou ont traîné longtemps aux arrêts des bus. En cause, les chauffeurs de transport en commun protestent contre la nouvelle grille tarifaire de l'hôtel de ville de Kinshasa. Et puis, processus d'expropriation des populations riveraines des rocades à Kinshasa. Le chef de la commission d'expropriation du gouvernement assure que toutes les personnes impactées par ce projet auront bel et bien leur indemnisation. Georges Cauchy est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Plus de 10 000 ménages des déplacés vivent dans des conditions difficiles au centre de Pinga et dans les groupements voisins de Iana et Lubérique. C'est dans le secteur des Wanyanga, territoire de Walikale, selon le modérateur du cadre interpaysan pour la transformation des conflits à Pinga. Il s'agit des personnes qui avaient fui l'avancée des rebelles du M23 vers Pinga depuis fin octobre 2024. Il appelle à une intervention pour répondre aux besoins urgents de ces personnes sur le plan sanitaire et alimentaire. Julien Mouchoumba est joint par Bernard Nyangi.
À Pinga Centre, plus ou moins 5000 ménages sont dans les familles d'accueil, venir du côté de Bouleusa, d'Empeti, Kalembe, Katobo, Malemo, Minjenji et Hula. D'autre part, à partir du mois de novembre 2024, au moins 70% des ménages se sont orientés dans le groupement Ihana et dans le groupement Lubérique, dans la zone de santé de Kibua. Et dans les 8 heures de santé où ces déplacés sont localisés. Les Misau, Kimba, Robe, Limangi, Kibua, ces déplacés se trouvent dans une situation désastreuse. C'est ainsi que nous lançons ces cris d'alarme auprès de toutes les autorités, notamment les humanitaires, pour venir en aide à ces déplacés. Les besoins sont en termes de soins de santé primaires, les besoins en vivres, des caches, des nuits ou des abris provisoires.
Rappelons que des affrontements violents avaient opposé l'armée congolaise aux rebelles du M23 durant tout le mois de novembre 2024 sur l'axe Kalembe-Pinga, provoquant des déplacements massifs des populations. Actuellement, l'axe Kalembe jusqu'à Peti, environ 10 km de Pinga, reste sous occupation des rebelles, indiquent des sources sur place. Entre-temps, des violents combats ont été signalés dans la matinée de ce lundi au village Mufundi, près de Ngungu, dans le territoire de Masisi. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Selon des sources locales, l'armée congolaise qui contrôle Ngungu depuis le week-end tente de déloger les rebelles M23 de ce village. Par ailleurs, un calme précaire est observé sur plusieurs autres fronts, c'est notamment dans les zones de Kibumba et Sake. Le récit de Bernard Nyangi.
C'est autour de 8 heures locales que des tirs d'artillerie de l'armée congolaise ont été signalés en direction du village Mufunzi, près de Ngungu. Selon les sources sécuritaires dans la zone, l'armée et les Wazalendo poursuivent une offensive pour déloger les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et qui, pour ses sources, tenteraient de s'organiser pour attaquer à nouveau le centre de Ngungu. Par ailleurs, un calme précaire est observé ce lundi autour de Kibumba, territoire d'Ingragongo, et autour de Sake, territoire de Masisi. C'est après de violents combats jusque dans la soirée hier entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Sur l'axe Kibumba, nos sources indiquent que l'armée a repoussé l'attaque hier des rebelles contre l'entité de Nditi dans le parc de Virunga jusqu'à avancer vers Kibumba. Cependant, dans la soirée, vers 17h, les rebelles ont largué 5 obus ciblant les camps de déplacés dans le groupement de Kibati sans faire de victimes. Et dans le groupement Kamuronza, l'armée contrôle toujours Sake après échange de tirs le matin, hier dimanche, sur l'axe Kimoka, au niveau des collines Kiuli et trois antennes surplombant Sake. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Nord-Kivu toujours, dans le territoire de Beni, le chef du village de Bapakombe Bakondo plaide pour le renforcement des mesures sécuritaires dans le Mayangos, grenier de Beniville et territoire. C'est au lendemain d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des EDF, attaque qui a coûté la vie à 3 personnes. Pour cette autorité coutumière, la résurgence de l'insécurité dans les villages de Mabambila, Kipeyayo, Mayangos et tous les blocs agricoles de cette entité coutumière risque d'impacter négativement l'alimentation de la population dans la région. Le Mwami Ashu Taibo, chef du village de Bapakombe Bakondo, explique la situation au micro de Marc Marofimbo.
Ce que je veux dire à la population est d'être d'abord calme, d'être vigilante. Nous devons appuyer les FRDC afin que cet ennemi soit bouté dehors de notre entité. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des opérations presque partout. Et avec ces opérations, il y a une diminution d'effectifs dans le cadre opérationnel. Voilà pourquoi l'ennemi veut se concentrer maintenant au centre. Et la seule chose que nous demandons et que nous ne cessons de demander est de renforcer les opérations dans la zone de Mayangosi, qui est le grenier de la ville de Beni. Nous tous, nous sommes déjà témoins. Depuis le 2 janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a la hausse des prix de denrées alimentaires. C'est-à-dire, une fois que l'ennemi s'éternise encore dans cette zone, nous risquons d'entrer dans beaucoup de situations dans les centres-villes de Beni. Donc, nous demandons aux autorités politico-administratives, nous demandons aux autorités militaires de tout faire à ce que cette zone de Mayango se soit mieux sécurisée, afin que la ville aussi soit sécurisée de tous côtés.
Pendant ce temps, en Ituri, des chefs coutumiers et notables des entités Bira ont pris l'initiative d'accompagner le processus de paix pour le développement socio-économique de leurs entités. C'était samedi à Irumu Centre, à l'issue d'une rencontre entre les leaders communautaires et les responsables des factions de la milice Force Patriotique et Intégrationniste du Congo. Au cours des échanges, les notables ont encouragé les jeunes qui détiennent encore les armes à quitter la brousse pour rejoindre leur communauté ou la réserve armée pour la défense RAD et défendre la République. On écoute à ce sujet le député national Robert Bungi Chabaku dans ses propos recueillis par Ezekiel Muzalia.
Nous avons rencontré les chefs des cinq chefferies et groupements Bira pour parler de la situation sécuritaire dans notre milieu. Jusque-là, il y a des avancées significatives, bien qu'il y ait encore des choses à améliorer pour que la paix totale puisse revenir et que nous ne puissions plus rentrer en arrière. Nous avons résolu de réunir tous les jeunes parce que le gouvernement a initié un bon programme de la RAD. Nous voulons que les jeunes qui ont pris les armes partent servir dans ce programme pour défendre efficacement le pays. Et ceux-là qui désirent quitter la brousse, qu'ils reviennent dans la communauté pour travailler. Nous remercions l'administrateur du territoire qui vient de nous autoriser en plus de circuler dans d'autres localités pour sensibiliser les jeunes. Et nous, de notre part, nous allons maintenant réunir tous les responsables des jeunes et voir comment les choses vont s'améliorer encore davantage.
Sud-Kivu, le territoire de Shabunda fait face à un afflux massif des patriotes Wazalendo ces jours-ci. Ces derniers sont accusés de semer l'insécurité dans cette entité la plus enclavée de la province. La population locale dit être tracassée de jour comme de nuit. Maître Joseph Mpeseni, président de la société civile bureau territorial de Shabunda, alerte les autorités civiles et militaires sur ce cas au micro de Jean Kassami.
Nous sommes en train de connaître une petite perturbation de la sécurité au niveau de la chefferie de Wakabango Premier, où un mouvement de Wazalendo est en train de s'accroître et que cela tracasse normalement la population. C'est à ce niveau que nous demandons à toutes les autorités, tant civiles que militaires, surtout pour les militaires FRDC, de mettre hors d'état de nuire tous ces mouvements qui sont en train de naître, car au niveau de Shabunda, tout comme dans cette chefferie de Wakabango Premier, il n'y a pas la raison de ces mouvements de Wazalendo. Sinon, c'est à partir du Nord Kivu ou en Ituri qu'on a besoin de ces mouvements-là de Wazalendo pour essayer de combattre les M23. Mais là où les M23 ne se trouvent pas, nous ne savons pas pourquoi ces mouvements peuvent continuer à tracasser la population aux vies et aussi des autorités qui doivent mettre la sécurité.
Nos tentatives de joindre la hiérarchie militaire en province sont restées vaines. Rendons-nous dans le Grand Bandundu. La grève des médecins membres du SINAMED, radicalisée depuis le 28 décembre dernier, se poursuit. Entre-temps, les conséquences se font déjà sentir dans les hôpitaux publics, notamment à l'hôpital général de référence de Bandundu dans la province de Kwilu. Selon les patients, leur prise en charge n'est pas assurée comme il se doit, car l'effectif des médecins devant s'occuper d'eux est réduit sensiblement. Irène Mboma les a rencontrés. Voici son reportage.
Nous sommes à l'hôpital général de référence de Bandundu. Ici, certains malades et gardes malades trouvés affirment ne pas être satisfaits du nombre réduit de médecins qui sont restés au poste à la suite de la grève des médecins affiliés au syndicat national des médecins, SINAMED en sigle. D'après eux, cette situation a un impact négatif sur la prise en charge des patients car, disent-ils, même les tours de salle sont devenus rares, découlant de l'insuffisance de ces personnels. À notre arrivée ici, on nous a dit que les médecins sont en grève. Ils viennent rarement pour nous voir et aussi en retard. Parfois, vers 10 heures, vous voyez un médecin entrer. J'ai constaté ici qu'il y a peu de médecins, mais beaucoup de malades. Je ne vois que 3. Sauront-ils faire le tour des salles jusqu'à la fin? Ce sont les malades qui payent les pots cassés. Moi, c'est grâce à Dieu que mon enfant vit encore. Quand nous sommes arrivés ici, on a attendu longtemps avant qu'un médecin arrive pour les consulter. Vraiment, c'est difficile pour les malades. Certains malades pointent des doigts le gouvernement congolais qui, selon eux, reste le seul responsable de cette situation. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, ici à Kinshasa, nous parlons de ces perturbations dans le transport en commun. Plusieurs Kinois ont fait la marche à pied ou ont dû traîner longtemps aux arrêts des bus. En cause, une protestation des chauffeurs de transport en commun contre la grille tarifaire récemment publiée par l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est un reportage de Babel Mpongo Masimango rendu par Blaise Shindani Kambala.
D'abord très timide le matin, les taxi-taxi-bus ont fait leur retour sur la chaussée vers la fin de la matinée sur plusieurs artères. Mais ils ne sont pas aussi nombreux que d'habitude. Il y a foule aux arrêts, c'est le cas à Kintambo Magasin. La plupart des taxi-bus font les sectionnements des tronçons ou demi-terrains. Eux qui le peuvent les prennent, ceux qui n'ont pas prévu de moyens supplémentaires continue d'attendre aux arrêts. Témoignage.
C'est une demi-terrain, mais on n'a pas le choix. Il faut toujours monter parce qu'il n'y a pas de transport.
Vous payez combien comme ça?
1500.
Je pars jusqu'au Grand Marché Zango.
Vous avez traîné?
Oui, jusque-là, il n'y a pas de transport. C'est compliqué.
Pour ceux qui arrivent, c'est quoi?
Demi-terrain, 24.
Les conducteurs disent ne pas se retrouver avec les prix fixés dans la nouvelle grille. Pendant ce temps, à Kitambo Magasin, par exemple, une centaine de motos stationnent en quête de clients.
Rendons-nous dans la province du Sankuru, sur la nationale numéro 7 précisément. Le pont Fuchumo sur la rivière du même nom qui relie les cités de Lodja et Benadibele s'est incliné il y a une semaine. C'était lors du remplacement de l'ancien pont par le nouveau. L'ancien qui s'était effondré depuis octobre dernier suite à sa vétusté était en train d'être remplacé. D'après le directeur provincial de l'Office des routes, les soudures qui relient les deux ponts lors de cette opération de remplacement s'y sont détachés et a causé une inclinaison. Serge Mukamba, directeur provincial de l'Office des routes, explique. Il est joint par Esther Ndalafina.
Il y avait les ponts neufs, les ponts matières et puis les ponts anciens, ponts Belay. Il fallait faire sortir Belay pour remplacer les ponts matières. L'injonction-là qui a relié entre les ponts matières et ponts Belay, c'est ça qui nous a fait des défauts. Avec le portée de la rivière, 45 mètres 75, nous sommes bien partis vraiment. Mais comme il y avait un ancien pont, les éléments étaient déjà fatigués. Et on partait lentement. Avec l'écartement de la rivière, ça a quand même fait fatiguer la jonction. On était presque arrivé à 6 mètres parce que c'était des tronçons qui restaient. Et là où on a connu de l'autre côté là, un petit inclinaison. Nous avons tenté vraiment de redresser les petites inclinaisons là. On a encore renforcé pour terminer à le 1er janvier. On a quand même essayé de pousser et l'autre côté qui était resté, ça a encore donné encore une grande inclinaison. Nous sommes arrêtés à ce niveau-là. Maintenant, on est en train de chercher un moyen pour regrouper des matériels et pour faire sortir ça.
Direction la province du Maniema, en prélude du lancement d'une bibliothèque moderne à l'université de Kindu, un atelier portant sur la force du livre dans le monde contemporain est organisé par le secrétariat général à la recherche. Ouvert ce week-end, cet atelier réunit les étudiants ainsi que les chercheurs juniors et seniors de l'ancien système et du nouveau système LMD. Selon le secrétaire général à la recherche de l'université de Kindu, l'objectif est d'aider ces chercheurs à produire un travail de qualité et ainsi éviter le plagiat dans leur travail scientifique. Florence Kizalunga, reportage.
C'est l'amphithéâtre Mapon qui accueille cet atelier. Samuel Yagassé, l'un des conférenciers, réveille la conscience des chercheurs et étudiants sur l'importance du livre, surtout les livres physiques qui semblent, selon lui, être enterrés dans le pays.
Je suis très convaincu que, en tout cas dans notre pays, on a enterré le livre. Et on constate, malheureusement, que ce sont des vieilleries. Et en plus, bon, il faut le dire que les Congolais sont en train de perdre, petit à petit, la culture du livre. Nos étudiants qui finissent aujourd'hui, il faut seulement voir. Pose-leur la question de savoir quel livre ils ont lu pour faire leur travail, c'est un problème.
Une déclaration qui révolte les participants. Saloum Ouanzo Victor est l'un d'entre eux.
Cette sensibilisation me donne le goût de beaucoup lire pour m'épanouir. Je promets de lire continuellement le livre.
Le gouvernement provincial soutient l'ouverture de cette bibliothèque moderne à l'université de Kindu. Georges Kasongo est le représentant de l'autorité provinciale.
Tout ce qui touche au progrès, à la connaissance, être que le bienvenu. Pour nous, on ne trouve pas de conséquences à avoir une très grande bibliothèque, même la première du Congo à Kindu.
Sachez que les travaux de cet atelier se clôturent ce lundi 13 janvier au site Luama 1, Kindu. Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le Parlement du Mozambique siège pour la première fois ce lundi 13 janvier à la suite des élections contestées du 9 octobre dernier. Si cette étape marque un tournant politique pour le pays, elle se déroule cependant dans un contexte de forte opposition. À Los Angeles, les principaux incendies qui ont ravagé la ville continuent et sont encore loin d'être totalement maîtrisés et le bilan provisoire est monté à 24 morts. Il est prévu que le vent souffle jusqu'au mercredi, empêchant les déplacés de rentrer chez eux avant plusieurs jours.
L'invité.
Le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics salue l'évolution du processus d'expropriation des populations riveraines des rocades à Kinshasa. En tête de la commission d'expropriation du gouvernement, Georges Kochi exprime sa satisfaction à l'issue d'une visite d'inspection sur ces routes périphériques qui ceinturent la ville de Kinshasa et la ville de l'ouest et à l'est. Il assure que toutes les personnes impactées par ce projet auront bel et bien leurs indemnisations. Georges Kochi et son entretien avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Georges Kochi.
Bonjour Monsieur le journaliste.
En quoi a consisté la descente sur terrain ce samedi 11 janvier de la commission d'expropriation des personnes qui seront impactées par les projets rocards?
La descente de ce jour a consisté notamment à ce qu'on puisse vérifier, faire les suivis de tous les travaux qui se font sur le terrain, ainsi que de discuter avec les personnes impactées qui, jusqu'à présent, ne sont pas encore invitées à nos bureaux afin que nous puissions entamer les discussions de manière à leur remboursement.
Après la ronde, monsieur le secrétaire général, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire?
De ce qui ressort de notre, de notre descente sur le terrain, il ressort que beaucoup, n'est-ce pas, de nos compatriotes ne comprennent pas qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas encore payés, et surtout les personnes impactées. Il y a beaucoup aussi qui ne savent pas encore le problème qu'il y a tout autour de la construction de ces routes. Et aussi les personnes impactées qui ne comprennent pas les retards pris par le gouvernement pour le remboursement, étant donné qu'ils sont déjà expropriés. Donc c'était pour mettre le point sur les i, pour les uns et les autres. Pour les généralistes, c'est qu'ils vivent de visu ce qui est fait, qu'ils entendent ce que disent la population, qu'ils écoutent aussi le président du comité des associations que je suis, les réponses données à toutes ces personnes impactées et les assurances qui ne sont pas les assurances en l'air, qui sont des assurances sûres que ces personnes seront invitées, qu'on va discuter et qu'ils seront payés.
Pouvons avoir l'idée sur la date?
Ben, nous le faisons déjà sur la première partie. Nous avons déjà envoyé les demandes pour leur paiement sur la première partie, c'est-à-dire que rocade sud-ouest. Déjà, nous avons envoyé la première partie pour leur paiement, mais à partir de la semaine prochaine, nous continuons avec la deuxième série. Parce que chaque personne qui vient nous prend à peu près 30 minutes. Donc, vous savez, nous avons un peu plus de 1000 personnes impactées. Donc, tout le temps que ça prend pour négocier. Et ensuite, nous avons un deuxième problème. Il y a des personnes qui n'ont pas encore de titre. Et pour avoir des titres, il faut que nous envoyions les documents au ministère des Affaires foncières. Il n'y a que le ministère des Affaires foncières qui leur confère les titres de propriété. Donc, c'est ça aussi le problème qui retarde un peu les expropriations.
Quelles sont les conditions à remplir pour que ces personnes qui seront impactées puissent bénéficier de ces fonds d'expropriation?
Il n'y a pas d'autres conditions. Il faut avoir les titres de propriété. Ça, c'est un. Vous êtes propriétaire, vous avez les titres. Et ensuite, on fait les mesurages sur votre parcelle qui sera impactée par les autres. On calcule, parce qu'il y a un arrêté qui définit le coût par mètre carré de terrain. On calcule et on ajoute, n'est-ce pas, ce que nous appelons une valeur ajoutée. Si jamais il y avait des arbres fruitiers, s'il y avait un champ de manioc, de maïs ou d'haricots, et ou s'il y avait des constructions. Tout ça, on évalue. Après avoir fait la sommation de tous ces calculs, on trouve la valeur, n'est-ce pas, pour le paiement par rapport à l'expropriation.
Si ce n'est pas un secret, c'est combien par mètre carré?
Je crois que c'est autour de 19-20 $.
Certains estiment qu'il faut éviter de détruire plusieurs maisons pour minimiser les coûts d'indemnisation. Qu'en dites-vous?
Mais c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est les tracés qui nous déterminent normalement les expropriations. C'est-à-dire nous évitons le plus possible là où il y a de grandes constructions, dans des constructions denses. Dans les cas de force majeure, nous sommes obligés de casser. Mais nous évitons le plus que possible de détruire le plus de maisons possible. Parce que ça a un coût. Et ce coût-là se répercute sur le coût du kilomètre de la construction de la route.
Et quelles sont les différentes phases, monsieur le secrétaire général, pour aboutir à l'indemnisation?
Il y a d'abord la phase d'identification. On identifie les personnes qui seront impactées. On signe un procès verbal de constat ensemble avec eux après mesurage sur la partie du terrain qui seront impactées. Et après, la commission travaille là-dessus et demande aussi les titres de propriété. Pour ceux qui ont des titres de propriété, on entame les discussions. Pour ceux qui n'en ont pas, nous envoyons les documents au ministère des Affaires foncières pour qu'on leur octroie les titres de propriété, moyennant paiement.
Monsieur le secrétaire général, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.